d'un père, le désir de Saint-Père qui dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Bon, je crois qu'on a donné en gros les traces de « Je suis le chemin, la vérité », les grandes traces. Il faudrait regarder maintenant la vie. Alors, je ne vois pas très bien, personnellement, comment la question notamment de la vocation, rappelez-vous, vous voyez la question de l'engagement, du témoignage, d'un peu cela. Alors, essayez de voir ça, voyez, au point de vue mystique. Je ne vois pas très bien comment ces trois aspects de la vie peuvent être vécus en dehors d'une compréhension parfaite, la plus parfaite possible, de ce que c'est que la chasteté, de ce que c'est que la tempérance et l'esprit de virginité. Vous voyez, des trois niveaux. Il faut avoir une vision, donc autrement dit, une vision juste sur le corps, sur le point de vue de la signification du corps et sur le point de vue de l'esprit de virginité proprement dit. Voilà les trois niveaux qu'il faut bien distinguer. Parce que la vertu de tempérance, ça n'est pas du tout la vertu de chasteté. Et la vertu de chasteté n'a rien à voir avec l'esprit de virginité. Rien à voir. Et donc, l'esprit de virginité, la vertu de chasteté est propre à toutes les vocations. La tempérance aussi, bien entendu. La tempérance est une vertu qui appartient au point de vue chrétien, qui se prolonge du point de vue chrétien dans un des sept dons du Saint-Esprit qu'on appelle l'esprit de science. Le don de science. Et le don de science a pour caractéristique intime, intérieure, de faire que l'on pleure. Bienheureux ceux qui pleurent et seront consolés. Et Marie-Madeleine qui a compris qu'elle avait saccagé son corps quand elle a compris à travers le corps de Jésus qu'elle avait saccagé son corps. Elle a compris à ce moment-là que à la lumière du recréateur, c'est Jésus qui recrée tout, que son corps qui venait de la création de Dieu était complètement en dehors de sa nature, son orientation naturelle. Alors, vous voyez, elle était littéralement en larmes, bien sûr, de ce côté-là, parce qu'elle voyait que, au fond, elle était complètement en dehors de la sagesse du Créateur. Très bien. Mais le deuxième aspect des larmes, c'est aussi que le fait qu'on aime. C'est surtout Marie-Madeleine, c'est le deuxième aspect de l'onde de science, c'est qu'on est tellement pris par l'amour de l'Esprit Saint que du coup on est obligé de s'arracher de l'amour corporel de la terre, et c'est pour ça que ça fait pleurer, ça fait des grosses tailles, une espèce de crucifixion qui se fait par le don de science, qui fait qu'on est obligé de s'arracher parce qu'on aime trop Jésus. Et du coup, on s'arrache librement, oui, et ça fait mal. Vous voyez, quand par exemple, on est très très amoureux, on sait que ça n'est pas sain pour nous, et on s'arrache librement parce que l'esprit de conseil nous emporte, et j'allais dire, fait que c'est plus fort que nous, presque instinctivement, on s'arrache de celui dont on est amoureux, parce qu'il sait qu'il nous détruit au plan du corps. Et ça, c'est... Alors du coup, c'est les deux aspects du don de science et qui fait qu'on est affligé. Et c'est instinctif, vous voyez, c'est un instinct divin que vous avez certainement tous éprouvé et qui est lié, c'est l'aspect chrétien, si vous voulez, de la vertu naturelle de tempérance. La vertu de chasteté, quelque chose d'un petit peu différent. La vertu de chasteté, elle est par rapport à la signification du corps. Donc, vous voyez, la signification spirituelle du corps, c'est le point de vue de la chair. Ça ne regarde pas le corps, ça regarde la chair. Et la chair, vous voyez, en hébreu, ça ne veut pas dire l'aspect périphérique du corps. La chair, ça veut dire l'âme en tant qu'elle se soude le corps. C'est ça, la chair. c'est l'âme qui se soude son corps. Et quand on dit les deux ne feront qu'une seule chair, c'est les deux âmes qui sont tellement confondues, liquéfiées l'une dans l'autre, qui ne font plus qu'une seule âme et qui se soudent deux corps. Une seule chair, c'est ça que ça veut dire. Au sens littéral, je dirais. Et la vertu de chasteté, donc, regarde la chair. Elle regarde donc la signification du corps de la femme et la signification spirituelle, la signification vitale du corps de l'homme. Alors là, un petit parenthèse, c'est dommage que Daniel ne vous en parle pas, parce que je vous signale qu'il pourra d'ailleurs compléter, parce que procurez-vous la cassette « Ton corps pour le Seigneur » de Diaconia, qui est extraordinaire. Et puis aussi, je sais pas qui est-ce qui diffuse, tu vois, ton truc sur ton corps fait pour l'amour. Et puis aussi, le speech, je veux dire, l'interview que tu as eue à Radio Fourvière, avec Radio Fourvière, qui est vraiment très très fort, justement, pour la chasteté, vue du côté du prêtre. Plus les bouquins, etc. Bon, bref, alors, en vrai, c'est une mine infinie, bien sûr. Mais tout ce que je peux vous dire, moi, personnellement, c'est que le Saint-Père est spécialiste. J'allais dire, c'est sa spécialisation, c'est ça. C'est le point de vue de la signification du corps de la femme, la signification du corps de l'homme. Ça a toujours été son grand, pas dada, mais j'allais dire son grand charisme. Et sa grande grâce, c'est vraiment le docteur de l'Église au niveau du corps de la femme et du corps de l'homme. Ça, je crois que si un jour il est proclamé docteur de l'Église, ce sera à cause de ça. Parce qu'il est le seul à en avoir parlé. Et il est le seul à en avoir parlé, non seulement à avoir commencé d'en parler, mais aussi il est le seul à en avoir parlé complètement. C'est-à-dire jusqu'au bout. Ce qui est assez spectaculaire, parce que vous voyez, on était toujours resté dans la conséquence du péché originel, qu'on appelle la pudeur. Vous voyez ? Et pas justement à cause de... On s'était laissé enfermer dans cette pudeur, conséquence du péché originel, et on n'en avait pas parlé dans l'Église. Donc il ne fallait pas en parler. Et le Saint-Père, lui, qui aime tellement l'Immaculée, n'est-ce pas ? La pudeur, vous voyez, dès qu'on est dans l'Immaculée, la pudeur tombe immédiatement, c'est sûr. Alors on regarde la femme, et le corps de la femme, avec beaucoup plus de joie, de contemplation. La chasteté, c'est la contemplation. Vous voyez, comme ça, rien à voir avec la vertu de tempérance. La vertu de chasteté est une vertu qui permet de contempler, qui correspond au point de vue chrétien, au don d'intelligence, deuxième don du Saint-Esprit, lequel don du Saint-Esprit s'éprouve intérieurement de la manière suivante. Bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Autrement dit, voyez, je m'aperçois que à chaque fois que je me laisse un peu prendre, j'allais dire par une fausse vision sur le corps, voyez, que je pose mes yeux à l'endroit où il ne faut pas, et que je fais oraison après, eh bien je vois les mystères de Dieu d'une manière beaucoup moins distincte. Voyez ça? Voyez, si. Est-ce que vous comprenez? Si j'ai vu évidemment un film effrayant, pendant 15 jours, je suis incapable de contempler les mystères. Je suis incapable, vous voyez, bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Il y a une espèce de brouillard, que dis-je, de boue, qui empêche la pointe suprême de mon intelligence, de mon esprit, de contempler et de pénétrer comme le coup de lance pénètre le cœur de Jésus. Et la chasteté, au fond, c'est ça. C'est cette espèce de coup de lance. C'est ce qui fait que mon âme a été aiguisée et peut pénétrer à travers la chair pour trouver au centre du cœur de Jésus la signification du corps. C'est l'amour. Sans la chasteté, c'est impossible. Notre intelligence n'est pas aiguisée. Et suffisamment aiguisée pour faire ce percement extraordinaire qui nous permet de voir. Et vous comprenez que là, ça, c'est un instinct aussi. Parce que tous les dons du Saint-Esprit, comme dit Saint Thomas, sont des instincts. Mais ce ne sont pas des instincts physiques, ce sont des instincts absolument divins et totalement divins et qui se répercutent, j'allais dire. Et quelquefois, tout d'un coup, l'Esprit Saint vous prend et vous emporte. Et tout d'un coup, vous voyez. Ceci, vous voyez, bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu. L'esprit de virginité, tout à fait autre chose. L'esprit de virginité, c'est quelque chose de totalement différent encore. C'est un des trois aspects des conseils évangéliques. Et l'esprit de virginité est, j'allais dire, quelque chose qui est propre à la consécration religieuse. Enfin, attention, encore qu'il faut mettre encore un nota bene. L'esprit de virginité est vécu par participation dans toutes les autres vocations que la vocation du Carmel, évidemment. C'est évident, n'est-ce pas? Puisque l'esprit de virginité, c'est les conseils évangéliques. L'esprit de virginité, alors, qu'est-ce que c'est? Ça implique la purification de l'homme dans les trois demeures de l'humain, en extension et en compréhension. Alors, oui, non, c'est peut-être un peu compliqué. C'est-à-dire qu'il faut être purifié dans toutes nos dimensions humaines en extension, en quantité, une espèce d'accumulation d'antivirginité en nous. De manière que le mystère de la pureté, de la virginité de l'agneau, de la virginité de l'époux et de la virginité du Fils, qui sont les trois virginités vécues dans les trois demeures de l'humain dans le Christ, puisse être participé par dans l'esprit de virginité. Et le Christ, c'est l'agneau de Dieu. Jésus, c'est l'époux. Et Jésus, c'est le Fils du Père. Et ça correspond à l'image de Dieu en nous. Et ça, c'est en intensité, vous voyez, en compréhension. L'esprit de virginité va faire que je vais devenir Jésus par participation. La virginité de l'agneau, c'est facile. C'est que Jésus prend sur lui l'iniquité du monde. Et du coup, il se dégage de toute impureté. C'est sa manière de se, voyez, en prenant du reste sur lui l'iniquité du monde, il s'en dégage. C'est le premier aspect de la virginité du cœur. La virginisation du cœur qui fait que l'agneau prend sur lui tout ça. Et Marie, l'Immaculée au pied de la croix, dans son mystère de compassion jusqu'à l'Assomption, vit justement l'esprit de virginité, en ce sens que dans son mystère de compassion, vous voyez, elle devient, j'allais dire, celle qui est au pied de l'agneau, la coupe. Vous voyez, et dans son mystère de compassion, elle prend sur elle également l'iniquité du monde, et elle s'en dégage tout, en même temps, tout en se dégageant de son impureté. Il y a une espèce de... Et vous voyez, au fond, de ce côté-là, c'est la souffrance. C'est la souffrance. L'agneau, c'est la souffrance. Cette espèce de plaie. On se laisse blesser par l'iniquité du monde. Et ça rejoint du reste, bienheureux ceux qui pleurent, bien sûr. Mais c'est un petit peu différent. En fait, en réalité, l'esprit de virginité, c'est la conjonction de trois dons. Le don de sagesse, le don d'intelligence, le don de science, en un seul acte. Et ici, dans quelque chose de beaucoup plus fort, vous voyez, ces trois au cube. C'est pour ça que cette purification de toutes les demeures de l'humain, en extension, ouais, toutes les dimensions en nous, et en compréhension, ça c'est le divin, et la croix. Et donc, le mystère de l'agneau, vous voyez, j'espère que je ne suis pas trop compliqué, mais je reconnais que ce n'est pas facile à comprendre. Mais concrètement, ça veut dire que Jésus, dans sa virginité du cœur, d'amour, son amour est virginal à Jésus. Son amour est tellement virginal. Comment un amour va-t-il être virginal au point de vue donc, du cœur? C'est en prenant, j'allais dire, à cause sur soi l'iniquité du monde dans ses conséquences. Et donc accepter la souffrance qui nourrit notre virginité du cœur. On accepte, on ne court pas derrière la souffrance. Mais voyez, on accueille lorsqu'elle est là. On choisit celui qu'on aime. On court vers celui qu'on aime. Mais on ne choisit pas la souffrance et on ne court pas vers la souffrance. Mais lorsqu'elle est là, on l'accueille. Parce que la souffrance vient de l'iniquité du monde, comprenez qu'on ne va pas courir derrière. Et comme l'iniquité du monde est là, on accueille l'iniquité du monde. Et on se laisse blesser par l'iniquité du monde pour porter l'iniquité du monde. Et dans la mesure où cette iniquité me fait souffrir, vous voyez à quel point ça vient de l'Esprit Saint, ça. Et la souffrance, à ce moment-là, est une nourriture, pour une nourriture à la virginisation de mon cœur. Deuxième virginité, aspect de l'esprit de virginité, c'est que Jésus, c'est l'époux. Jésus, c'est le Fils du Père. Bon, mais comme je vois que ça, vous êtes un peu largué, je laisse tomber ça. Donc, c'est pour vous montrer, vous voyez, que c'est quand même pas si... Donc, revenons donc à l'enseignement du pape qui est beaucoup plus simple. Tout ce que je pourrais essayer de vous dire, soyons très concrets. Philosophiquement d'abord. Philosophiquement, il faut avoir une vision sur le corps. Mais attention, vous voyez, comme je ne passe pas à un autre chapitre, parce que le sommet du point de vue de virginité rejoint ce qu'il y a de plus physique dans le corps. On est fabriqué de manière extraordinaire du point de vue. Et vous voyez comment, par exemple, pour ne parler que du corps masculin, on me disait l'autre jour, un médecin me disait qu'il y a effectivement, du point de vue du mécanisme de la sexualité, il y a deux centres totalement différents et séparés dans le bulbe brachytien, et puis je sais pas quoi, le médecin me dira, là, ici, le corps sacré, je crois, comment est-ce que ça s'appelle ça ? Ici en dessous, dans le bulbe rachidien, les centres moteurs, la sexualité masculine. Bon, elle ne sait pas, mais enfin je vous le dis. Donc ici, ici là derrière, et à deux endroits totalement différents, vous voyez, les centres moteurs qui commandent tous les mécanismes de la sexualité masculine. Alors vous savez, la sexualité masculine se distingue en deux choses totalement différentes et totalement séparées, alors qu'habituellement, on les met en continuité l'un avec l'autre, alors qu'il n'y a aucune continuité l'un avec l'autre. C'est le point de vue médical qui nous apprend ça, le point de vue de l'érection, et le point de vue donc de l'éjaculation proprement dite. Donc le point de vue de l'érection, c'est simplement qu'il y a le durcissement, si vous voulez, et puis le point de vue de l'éjaculation qui est lié directement à la fécondité et à la fécondation. L'érection n'est pas du tout finalisée par la fécondation. Vous voyez, c'est séparé. Très important à comprendre, parce que il faut comprendre à travers les mécanismes du corps quelle est la finalité de la distinction sexuelle masculine. De même qu'à travers le corps féminin, la femme, il faut comprendre quelle est la signification, la finalité de la sexualité féminine. C'est deux significations totalement différentes qui vont commander un exercice dans le don et l'accueil totalement différent. C'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir d'égalité entre l'homme et la femme. C'est une absolue complémentarité. Donc, je continue sur le corps de l'homme. La finalité de la sexualité masculine, ce n'est pas du tout la production d'une semence. Pas du tout. Donc, si vous voulez, c'est ce petit mouvement de projeter vers l'extérieur quelque chose que je porte à l'intérieur. C'est le contraire. Alors que vous voyez, dans le point de vue, par exemple, de la masturbation, après tout, j'ai envie de pisser. C'est pareil. Il faut que je me vide. Alors, il faut reconnaître que du point de vue médical, comme le médical est positiviste à cause de l'idéologie d'Auguste Comte, il fait des statistiques pour regarder la nature humaine en fonction des statistiques. Il s'aperçoit que 90% font comme ça. Et donc il en déduit que la nature est finalisée de cette manière-là. Et ce qui est absolument faux, parce que la masturbation est quand même un phénomène récent. Qui est lié à notre civilisation, et qui ne correspond absolument pas à la nature du corps humain, masculin. Alors quelle est donc cette finalité ? Eh bien, c'est exactement le contraire, à savoir que l'homme a des causes séminales des causes sexes, des dispositions, des organes sexuels qui sécrètent, j'allais dire, des... comment exprimerais-je ça? Pas encore le sperme, si vous voulez, mais des glandes sécrètes, j'allais dire, quelques... une production intermédiaire, j'allais dire, si vous voulez, hein, laquelle production est destinée, c'est la finalité de cette production, à être absorbée par l'organisme, par le corps lui-même, assumée, transformée en énergie vitale. Et ça, c'est le mécanisme du corps, tout à fait physique, hein, pas du tout fait pour être transformé dans le point de vue très très mûr du sperme prêt à sortir, si vous voulez. Mais la sexualité masculine produit des sécrétions, si vous voulez, qui ont pour finalité d'être complètement assumées, prises, absorbées, transformées en énergie vitale dans l'homme, de manière que ça produise en lui, si vous voulez, une absorption de tout son corps, par l'intermédiaire de tous les centres nerveux, et qui unifie à son cœur. Et de manière, c'est pour ça que la nature a voulu la sexualité masculine, qu'il y a ce mécanisme-là, c'est pour qu'il y ait une intériorisation du corps qui se colle à ce qu'il y a de plus profond. En même temps, ça fait l'unité du corps, dans tout le point de vue de l'irascible et du concupiscible. Parce que le concupiscible va à volo, et l'irascible va, comme ça, au volcan. Donc, vous voyez, donc ça purifie tout aspect nerveux, ça purifie, ça réunifie, et ça donne une énergie intérieure, une capacité donc de trouver en soi une intimité où on trouve le cœur de l'homme, et ce lieu où l'homme va pouvoir se donner intérieurement et emporter son corps derrière son nom. C'est à cause de ça que le corps masculin est fabriqué comme ça. Deuxième aspect du corps masculin, c'est que, évidemment, les zones sexuelles sont partielles, zones érogènes. C'est pas du tout pareil, évidemment, chez la femme. C'est pour ça, évidemment, comme c'est une erreur de considérer, par exemple, dans la relation homme-femme, que on doit se rendre, c'est pas, le même genre de réciprocité. Bon. C'est pas du tout pareil. Et comment la connaissance du corps de l'autre, c'est ce que dit Saint-Père, conditionne la relation d'amitié. Et la qualité de la relation d'amitié. Donc c'est quelque chose de très très partiel. Comme pour faire comprendre, comme j'avais beaucoup aimé cette parole de Saint-Hildegarde, justement sur le corps de l'homme, Saint-Hildegarde qui était une amoureuse de la nature, sur le corps de l'homme, en disant que justement, le corps de l'homme, ça montrait que c'était lui qui était l'énergie dans sa source. Et ça montre bien, vous voyez, on transforme, on assume, et c'est transformé en énergie vitale. C'est lui qui a l'énergie dans sa source, et la femme accueille et puise dans cette source, pour donner à cette source sa manifestation, pour la manifester à l'extérieur. Et la femme reçoit et manifeste à l'extérieur cette énergie. C'est très beau, manière de dire Hildegarde, Saint-Hildegarde. C'est très très chouette. Donc, maintenant, le point de vue du corps de la femme. Le point de vue du corps de la femme aussi, les grandes traces, bon, je vous apprendrai probablement pas grand-chose, mais enfin, normalement, vous voyez, c'est exactement le même principe, bien que ce soit, dans une structure totalement différente. Le corps de la femme, bon, il est structuré du point de vue donc de sa pointe. N'oublions pas quand même que aussi, je prends une autre parenthèse. Donc, deuxième aspect du corps de l'homme, c'est que c'est quelque chose de très partiel à cause de l'aspect de l'énergie. Et aussi à cause du fait que dans l'homme, c'est un être de lumière. C'est un être de lumière. L'homme, ça veut dire, a une lucidité beaucoup plus grande. L'intelligence, elle est plutôt du côté de l'intelligence, l'homme, par rapport à la femme. La femme est plus du côté de l'amour et du cœur. Pas de l'intuition, mais du cœur. Parce que l'homme est du côté de l'intelligence. Et alors, du coup, l'intelligence, est quelque chose qui est capable toujours de regarder, de voir, de discerner, de découper, de, voyez, de discerner. C'est parce que dans l'amour, précisément, il aura un rôle absolument unique, comme le dit Saint-Père, celui d'apporter un discernement dans l'orientation de l'amour mutuel et d'assurer le discernement et le choix sur la réciprocité du don. C'est lui qui fait communauté en fonction de sa lune, en fonction de son discernement. Il apporte avec lui le fait que l'amour est vécu dans la lumière. Du reste, quand la femme se présente à lui sous la modalité du corps, comme le dit Saint-Père, vous n'avez qu'à regarder la Genèse. La femme, quand elle se donne, Dieu la donne, elle se donne totalement à lui. Ça ouvre en lui, ça révèle en lui son cœur. Ça déchire en lui comme une espèce de révélation. Quand la femme se donne à lui, il y a une révélation. C'est une révélation. Il le vit comme une révélation. Il n'imaginait pas qu'on puisse donner à ce point. Et ça réveille en lui, j'allais dire, cet espèce d'étonnement extraordinaire de voir que lui aussi peut aimer en se donnant de cette manière. Mais il n'aurait jamais imaginé que l'amour ce soit ça. Et il le vit, point de vue, il le vit dans un premier temps comme une révélation. Son cœur s'ouvre. Quand j'ai rencontré Nathalie, ça a déchiré en moi des espaces. Je n'avais pas imaginé contenir, n'est-ce pas? Alors c'était merveilleux. C'est sûr, ça. Je crois que tous les hommes ont vécu ça. Et ceci, attention, c'est par le corps. C'est très important, hein, parce que ce n'est pas une révélation imaginative. Parce que si c'est un amour platonique, que vous n'êtes jamais touché, je suis sûr que vous n'avez jamais expérimenté ça. Il ne peut pas être autrement. C'est par le corps, sans qu'il y ait une relation, bien sûr. Complète, je ne parle pas de ça. Vous voyez ? Alors à ce moment-là, la manière dont la femme se donne par le corps, et même si c'est une manière chaste, elle se donne complètement dans son corps. Vous voyez, une simple, une étreinte chaste. Chaste étreinte. Je crois qu'il faut faire attention si on n'est pas encore complètement purifié, bien sûr. Restez prudent, bien sûr. Mais, c'est sûr, ça révèle dans le cœur de l'homme une dimension intérieure qu'il est fait pour l'amour. C'est une révélation. Et c'est le point de vue de la lumière. Et c'est ce qu'exprime le fait qu'il soit très localisé au point de vue de des zones érogènes. Ensuite, vous avez le troisième aspect de la sexualité masculine. C'est...
j'allais dire, je sais plus.
Bon, il m'échappe. Donc je vais passer au corps de la femme et je vais revenir. Non, j'ai pas besoin de la lumière. Enfin, sauf si vous avez peur dans le noir. Si vous avez peur dans le noir, alors à ce moment-là... Ah, c'est pour écrire, ah, pardon. Oui, tout à fait. Très bien. Bon, alors, reprenons. Le corps de la femme. Ça va me revenir, le troisième aspect, parce qu'il est évidemment capital. C'est toujours étroit, une dimension, à trois niveaux. Donc, du côté du corps de la femme, vous voyez bien comme la femme est structurée d'une manière tellement différente, puisque, j'allais dire, elle est prise entièrement, complètement. Son corps est unifié du point de vue de la chair. On ne peut pas dire que... Oui, bien sûr, mais enfin, elle est complètement prise. Vous voyez, du point de vue du corps, tout son corps, c'est le cycle du sang. Tant au point de vue donc du rythme, c'est le sang. C'est le sang qui, chez la femme, fait tout. Et une espèce de cycle, et le sang est donné régulièrement. Comme pour montrer que la femme est toujours prête à donner gratuitement. Une espèce de gratuité dans le don. Totalement gratuit. Ouais, le sang est libéré gratuitement. Il y a une espèce de toujours appel à donner. Donner le sang, donner la vie, donner sa vie. Et puis, ça, c'est le point de vue de l'extérieur, mais le point de vue de l'intérieur, c'est que le sang circule et se lit. Ça y est, j'ai trouvé le troisième aspect. Du corps de l'homme, je reviens immédiatement, voilà. Oui, parce qu'il faut quand même séparer les chapitres. Bon. C'est que le corps de l'homme est structuré de cette manière-là, et c'est grâce au fait de cette structure-là, masculine, qu'on peut comprendre que l'âme et l'esprit se lient au corps par la sexualité. Si vous voulez, le nœud, le lieu où l'esprit, la dimension spirituelle en nous, de notre âme, rejoint, j'allais dire, le plus directement l'information du corps, du côté de la lumière et de l'amour, c'est par la sexualité. Donc si je vis, vous voyez, c'est ce qu'on dit, que la parole de Dieu descend jusqu'à la racine de l'âme et de l'esprit, par son lien avec le corps, quel est le lieu où l'âme, notre âme, sous le corps, c'est par la sexualité. Donc si je vis mal ma sexualité, je serai totalement divisé. Ce qui est évident. Mais comment donc le corps de l'homme nous fait comprendre ça? Masculin. Et si je vis mal de la sexualité, ben c'est évident. Regardez par exemple, si je vis la sexualité masculine comme du côté de l'urine, vous voyez, et uniquement comme ça, eh bien, forcément, mon corps va prendre une orientation de l'intérieur vers l'extérieur et sera sans arrêt, à s'arracher, j'allais dire, de son mouvement naturel, qui est au contraire de se sortir là pour faire une seule chair avec son être même. Et c'est le péché originel qui, dans sa première conséquence, la concupiscence de la chair, fait que nous avons comme un instinct. C'est pas un instinct naturel, c'est un instinct conséquence du péché originel, qui fait que notre corps donc se libère vers l'extérieur et s'arrache, j'allais dire, à cette unité. Vous voyez comment cette sexualité vécue de cette manière-là est analogiquement la même chose que la mort, puisque la mort c'est séparer le corps de l'âme. Tout péché c'est la mort. Alors qu'au contraire, une sexualité vécue de manière naturelle se soude le corps et fait que quand on se donne tout entier, on se donne, vous voyez, par la chair et pas par le corps. Et ça, c'est très important, bien sûr, à comprendre. C'est évidemment capital. Donc, dans l'amitié entre l'homme et la femme, tant que je n'ai pas rejoint en moi la chasteté, je n'aurai pas rejoint en moi mon unité et je ne pourrai pas me donner. Et il sera donc impossible pour moi de vivre une amitié avec une femme. Ça, c'est le Saint-Père qui le dit et c'est évident. Et donc, si je reçois le sacrement de mariage, j'ai bien peur qu'il n'y ait pas de sacrement parce qu'il n'y aura pas la matière du sacrement. Puisque pour qu'il y ait sacrement de mariage, il faut qu'il y ait une amitié humaine. Et il est impossible, philosophiquement parlant, d'atteindre une amitié avec une femme si je n'ai pas, j'allais dire, saisi la signification de mon corps. Et à quel point c'est important de vivre de la chasteté. C'est à titre individuel déjà. Il est important de vivre de la chasteté pour la femme aussi. Et il est important enfin de vivre de la chasteté dans la relation mutuelle. Il y a trois chastetés à vivre. Qui se structurent de manière totalement différente. Trois chastetés. Et si on ne vit pas de ces trois chastetés, il est évident que on se coince complètement et on s'interdit absolument de vivre une amitié sexuelle, humaine, naturelle. Autrement dit, la plénitude de l'épanouissement de la sexualité masculine et féminine, on s'interdit de l'expérimenter. Parce qu'évidemment, c'est au sens du, vous comprenez? Au centuple, c'est sûr. Donc on rate, du point de vue même de la sexualité, quelque chose de fou. Évidemment, on rate aussi Et c'est essentiel de le comprendre. On rate aussi tout le point de vue de l'intériorité de l'amitié, cette espèce d'éclatement fulgurant que produit la rencontre de l'un et de l'autre dans la fusion des cœurs. Bon, c'est sûr. Et également, on rate, bien sûr, le point de vue mystique de la rencontre. C'est-à-dire, vous voyez, le fait de l'extase, où Dieu peut intervenir pour donner l'Esprit Saint aux deux en même temps, par le corps. Le deuxième aspect, donc, c'est la femme. La femme, on va retrouver, vous voyez, les trois choses. Vous voyez, c'est la femme structurée de manière complètement différente, vous le savez bien, donc, vous voyez, c'est pas du tout... Il suffit de regarder. Elle est structurée de plus, beaucoup plus, vous voyez, dans la rondeur. Et pour exprimer l'éternité, la rondeur exprime toujours l'éternité. Cette espèce d'éternité. Vous voyez, l'amour, l'éternité, je vous explique en un mot. Lorsque vous faites une expérience d'amour, vous vivez quelque chose de très, très intense. Vous faites une oraison, par exemple, et vous vivez d'un Saint-Esprit vous prend complètement. Et puis quand vous rêvez de l'oraison, vous dites déjà fini. C'est pas possible, ça n'a duré que 30 secondes. Le frère vient vous réveiller en disant c'est fini. L'oraison, faut aller à table. Ouais, c'est moine. Comment déjà? Mais ça n'a pas 30 secondes, ça commence. Mais non, exceptionnellement, on avait fait 5 heures d'oraison aujourd'hui. Donc, vous voyez, quand on a une expérience d'amour très très forte, le temps est pulvérisé. C'est ça l'éternité. Dieu est tellement amour qu'il n'y a plus de temps. Je veux dire, non seulement il n'y a plus de temps, il y a le temps tout entier en lui. Toutes les secondes et toute l'immortalité sont complètement absorbées dans son éternité, c'est-à-dire dans son amour. L'amour est complètement, le temps est complètement, j'allais dire complètement, pas pulvérisé, c'est pas ça, mais complètement absorbé par l'amour qui ne cesse de le créer. Ce met aller-retour extraordinaire. Donc la femme exprime ça, l'amour dans son aspect d'éternité, c'est-à-dire dans son intensité. La femme est médiatrice quand Dieu crée. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, la matière, la lumière, le ciel et la terre. Quatrième jour, le monde végétal. Cinquième jour, le monde animal. Sixième jour, l'homme. Et à chaque fois, remarquez bien, il dit, c'est le Saint-Père qui fait remarquer ça, c'est marrant. À chaque fois, il dit, et Dieu vit que cela était bon. Et quand il voit l'homme qui est seul avec les animaux, il dit, il y a une montée, c'est le point de vue du cosmos, c'est le point de vue du monde de la vie qui apparaît, c'est le monde de l'animal, c'est de plus en plus fort. L'homme, quand même encore plus fort. Et ça se termine par la femme, encore plus fort. Et pour bien montrer. Alors, dès que la femme est créée, dès que la femme est créée, Dieu se repose. Il ne peut pas faire mieux du point de vue de l'amour créé. La femme est médiatrice dans son corps, par son corps, avec son corps. Elle est médiatrice dans l'ordre de l'amour. Et c'est pour ça que quand Ève a péché, elle a été médiatrice dans l'ordre du péché. Parce que sa structure, littéralement, sa vocation, c'est d'être médiatrice dans le degré de profondeur de l'amour. Et comme elle a voulu opter pour un amour séparé de Dieu, elle a été médiatrice de cet amour séparé de Dieu, mais elle est toujours médiatrice de l'amour. C'est ce qui exprime justement l'aspect de la rondeur du corps. Le deuxième aspect, vous voyez, la rondeur est aussi du sang, donc de la vie, vous voyez, cette espèce de circulus qui prend tout. Bon, vous avez... Et du rythme aussi, hein. Tout ça c'est la même chose, hein. Ça appartient au temps et l'éternité qui est là. Le deuxième aspect, c'est le point de vue de l'accueil. Elle est structurée par l'accueil, c'est sûr. C'est bien évident. C'est l'accueil qui exprime bon, le fait, bien sûr, qu'elle accueille, est structurée sexuellement, mais pour accueillir, ça c'est sûr. Pour recevoir, pour puiser. Et c'est curieux, hein. Pour puiser, pour aspirer. Pour attirer, parce que l'amour attire. Espèce de succion extraordinaire. Alors vous voyez toutes les déviations diabolique, n'est-ce pas, à propos de la suggestion. Mais, et puis de manière aussi, dans la relation sexuelle proprement dite, de vivre, qui n'y convient absolument pas. Oui. Ah, Sarah, je veux quand même pas parler de ça. Mais c'est sûr que c'est l'attraction. Parce que dit Saint-Hildegard, puiser. Oui. Vous voyez, quand on parle au plan du corps, ça fait comprendre comment son cœur, spirituellement parlant, va vivre de la relation. C'est pour ça qu'on insiste, parce que le corps est une icône. Le péché originel est arrivé et a perturbé toutes les zones intermédiaires entre le corps et l'intelligence. Toutes, et même le cœur. Mais les deux seules zones de notre être qui ne sont pas qui ne sont pas perturbées par le péché et ses conséquences, c'est le corps et c'est l'intelligence, comme je vous disais. C'est pour ça que le Saint-Père, vous avez remarqué, a dit l'intelligence. Il a mis le doigt sur l'intelligence. Là, on ne peut pas vous avoir. Ils pourront faire tout ce qu'ils veulent, ils ne vous auront pas. Donc cherchez la vérité, formez-vous. Et là, vous serez fort. Et au point de vue du corps, et notamment, formez-vous pour savoir ce que c'est qu'un corps. Il faut contempler le corps. Mais toutes les zones intermédiaires, l'aspect sentimental, l'aspect passionnel du coup de foudre. L'aspect idéalisation, j'idéalise l'amour, l'aspect romantique, l'aspect le scrupuleux, si vous voulez, regarde au résultat. C'est le positivisme et notre dimension scientifique moderne qui fait que le scrupule peut nous prendre d'une manière tellement paralysante. Et parce que le positivisme regarde les résultats. Vous voyez, vous faites des expériences scientifiques, vous voyez, ça marche au point de vue scientifique si vous avez des résultats. Au point de vue médical, si c'est des résultats, c'est bon, le médicament est bon. Allez, hop, on marche. Allez, c'est les résultats. Donc au point de vue de la sexualité, vous luttez ou vous luttez. Vous pétez la gueule tous les jours. En mettant. Alors vous dites, ça y est, j'ai foutu. Mais non. Ça, c'est une idéologie athée, ça. C'est une des idéologies athées. Vous voyez, c'est la colonne du corps. L'idéologie athée, positivisme. Ça fait des scrupuleux. Ça s'attaque directement à l'esprit de science de Dieu. Ça s'attaque directement à la chasteté. Parce que on acquiert quelqu'un qui n'a aucune lutte, qui n'a jamais eu aucun problème, aucune tentation. Il n'a pas le vertu de chasteté. Il n'a aucune chasteté. La chasteté ne s'obtient que dans la lutte. Ce que j'essaie de vous exprimer tout à l'heure en disant que on prend sur nous l'iniquité du monde et on se laisse blesser par l'iniquité du monde. Et on accepte d'en souffrir et de continuer. Mais si on chute, qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? C'est la lutte qui compte, c'est l'intention. On lutte. On rame à contre-courant. Mais si le courant va plus vite, ben on se pète le... c'est pas grave. Qu'est-ce que ça peut faire? Ce que Jésus regarde, c'est l'intention. C'est l'intention. C'est l'orientation du cœur, tous les efforts qu'on fait. C'est ça la chasteté. Alors, il est évident que si vous avez ramé pendant 10 ans à contre-courant d'une chute du Niagara qui circule à contre-courant à 200 km à l'heure, après quand vous retrouvez sur un lac, par rapport au mec qui n'a pas ramé, que c'est dans le lac tranquille, hein, je peux vous dire que vous circulez à peu près 100 fois plus vite que lui. Bien entendu, oui, c'est ça la vertu de chasteté. La vertu de chasteté s'acquiert par la lutte. On ne se juge pas par rapport aux résultats. On les constate, on en souffre, on en pleure. C'est dans le silence. Et comme c'est très 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 important ça. Hein. Donc le scrupuleux, vous avez l'esthète aussi. Épicure. Voilà encore une autre manière caricaturer la virginité. Complètement idiot. Hein. Et que vous, c'est-à-dire, vous faites. Vous faites pénitence, vous faites très attention, vous vous réservez, vous ne vous donnez pas n'importe comment, etc. Même vous êtes vraiment merveilleusement une maîtrise de vous extraordinaire. Extraordinaire, mais c'est pour pouvoir en jouer au maximum. À certains moments, une fois tous les 3 ans. Ça, c'était évidemment un péché grave aussi. Évidemment. C'est très grave, ça, comme caricature. Ça. Bon, allez, on laisse passer les caricatures, on verra après. Donc, pour en être au corps de la femme. Alors, disons que c'est pour voir, il fait quelques petits trucs à faire tomber, comme ça. Au passage. Bon, voilà, le corps de la femme, donc on en a été là. Le corps de la femme est fait pour l'accueil. C'était le deuxième aspect, vous voyez, ce qui est assez évident. Et tandis que la chasteté masculine, vous comprenez bien, est pour l'unification du corps avec ce qu'il y a de plus profond dans le cœur, c'est-à-dire le lieu où le cœur rejoint l'intelligence de l'homme, la lumière, pour pouvoir se donner. Donc c'est le don qui structure tout le corps de l'homme. Il est fait pour atteindre en lui le lieu où il peut se donner. La femme, ce n'est pas son rôle au point de vue de l'exercice, puisqu'elle est donnée au départ. Dieu la donna à Adam. Être abandonné. Ce qui n'est pas tout à fait pareil. Elle est dans l'éternité. Elle n'a pas besoin de se précipiter. C'est sûr. Mais comme le corps de la femme, c'est très très intéressant. Et le troisième aspect, à savoir que le corps de la femme se lie à son âme, à son cœur et à la dimension et à la pointe de son esprit, c'est aussi, bien sûr, par toute la structure sexuelle de son corps de femme. C'est par ce lieu, ce canal, qu'elle peut se souder davantage son corps à son cœur profond, à tout son être profond, de personne, de femme. Qu'elle va trouver cette unité exactement comme l'homme, si vous voulez. Et que par ce moyen-là, vous voyez, elle va devenir médiatrice. Alors ça, c'est très 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 curieux. C'est très curieux, cette affirmation du Saint-Père, à partir du corps de la femme. La femme est médiatrice. Alors, je ne peux pas rentrer dans le détail, il a parlé 3 ans, 1 heure par semaine là-dessus, hein, sur le corps de la femme et le corps de l'homme. Hein. 78, 79, 80, 81. Hein. Et il a parlé pendant 3 ans. Ouais, je ne sais pas si vous voyez la somme que ça fait. C'est un génie. Hein. Et parce que je peux vous dire qu'il n'a pas regardé dans les traditions. On ne le trouve pas dans les traditions. Et ce que je vous dis sur le corps de l'homme, à savoir qu'il y a une espèce d'unification par la sexualité, c'est une chose qui n'est pas du tout inventée par le christianisme. C'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose qu'on constate philosophiquement. Par exemple, je connais très très bien un lama tibétain. Il s'appelle François, que j'ai catéchisé. Et je lui ai posé la question, il m'a dit, mais oui, bien sûr, chez nous, c'est comme ça. On considère que c'est ça. Et on constate que c'est ça. On a découvert depuis longtemps, ils ont une perspicacité beaucoup plus grande sur le corps tibétain. Parce qu'ils connaissent, j'allais dire, les lieux. Oui, absolument. Toutes les sécrétions, les causes dispositives masculines, absorbé, complètement absorbé pour une espèce d'unification, pour pouvoir donner complètement, se donner complètement à la lumière. Et c'est quelque chose, et vous savez, chez les Tibétains, c'est naturel, hein, c'est pas, il n'y a pas de grâce dedans, il n'y a pas de révélation chez les Tibétains. C'est le bouddhisme, c'est la philosophie, c'est ce que disait quelqu'un, c'est pas une religion, hein, c'est pas une religion du tout. Connaissance du corps qui est très très belle. Mais en général, chez dans la philosophie orientale, il y a quelque chose de beaucoup plus épicurien. Et parce qu'on fit de la chasteté pour, pas pour le plaisir, même très local, mais c'est pour qu'il y ait une expérience intense au point de vue spirituel, quoi. C'est pas une espèce d'exploit, ouais. Pour qu'on puisse vivre dans la relation sexuelle, un exploit qu'on pourrait pas atteindre sans une chasteté de 3 ans. Alors il y a plein de méthodes. Dans le taoïsme aussi, vous avez des choses comme ça. Ça ressemble beaucoup à Épicure, c'est l'équivalent d'Épicure. Donc vous voyez, dans le corps de la femme, alors, elle est structurée pour être médiatrice dans l'ordre de l'amour, parce que, puisque c'est elle, j'allais dire, qui par son corps, manifeste une splendeur, une perfection, vu que tout son corps est pris par la sexualité, donc c'est toutes les zones de son corps qui sont en lien avec son âme, en lien possible avec son âme. Et elle peut, j'allais dire, dès qu'elle s'intériorise, s'assimiler son corps de manière beaucoup plus facile, j'allais dire, que nous, beaucoup plus totale que nous. Vous comprenez? Et son corps exprime ça. De sorte que, lorsque l'homme la voit, Adam voit Ève. Et il dit, c'est l'os de mes os, la chair, de ma chair. Et c'est pour ça que le geste chirurgien avait pris la côte d'Adam, c'est-à-dire la partie la plus structurée du côté du cœur de l'homme. Donc la matière du corps de la femme, c'est ce qu'il y a de plus structurant du côté du cœur masculin. Mais c'est à partir de cette seule matière que tout le corps de la femme est fait. Je ne sais pas si vous voyez. Oh, et le corps de la femme, quand on regarde de manière contemplative, exprime ça à l'homme. L'homme voit, lorsque la femme s'abandonne à lui, il le voit très bien à quel degré de profondeur elle se donne. Il le voit très, très bien. Alors vous voyez, quand vous avez une amitié masculine-féminine, il y a quelque chose qui ne se peut pas se faire, impossible, parce que vous avez lorsque l'ami I est d'une très grande richesse de cœur, très profond, qu'il essaye de communiquer simplement dans la manière de se donner à son épouse, ce degré de profondeur, ça ne passe pas. Alors il faut qu'il attende qu'elle grandisse, qu'elle mûrisse, mais dans la relation de corps à corps, de l'époux et de l'épouse, la profondeur dans le don de l'homme à la femme ne provoque pas dans la femme une révélation qu'elle peut se donner à ce degré de profondeur et d'assurer la réciprocité. Non. Ça, c'est propre à la femme. Si la femme est plus pure, si son amour est plus pur, si son amour est plus profond, à ce moment-là, elle se donne avec un caractère de totalité et de profondeur extrêmement grande, ça réveille dans le cœur justement cette extraordinaire révélation. J'aurais jamais cru qu'on pouvait aimer comme ça. Ça réveille littéralement. Voici l'os de mes os, l'os du cœur de l'homme qui est révélé. Et la chair de ma chair, l'unité du corps avec ce qui est plus profond dans l'âme, qui est révélée par le corps de la femme. Et qui révèle à l'homme ce qu'il a plus profond dans le cœur et qu'il n'avait jamais réalisé. Ah, ça déchire, j'allais dire, une possibilité. Et forcément, tout le monde a expérimenté ça. C'est que si on avait des problèmes du côté de la chasteté, dès qu'on tombe vraiment amoureux, on résout ces problèmes d'un seul coup. Parce qu'il y a une révélation qui se fait, et donc une unification du corps, et plus qu'être profond dans l'âme, c'est normal. C'est naturel, ça. Votre propre expérience vous montre bien que ce qu'on vous dit là, c'est philosophique, c'est pas du tout chrétien. Donc ceux qui vivent de la sexualité vivent complètement en dehors de l'humain. Ils vivent à certains moments des relations sexuelles, à d'autres moments des relations de dialogue, à d'autres moments des relations, j'allais dire, de communion de personnes. Mais, en même temps, jamais. Ils peuvent pas. Du point de vue de la sexualité, c'est toujours séparé. très curieux. Ouais, on pourrait faire passer au micro tout le monde ici, chacun son tour, pour donner ses expériences dans ce domaine. Ce serait très intéressant parce qu'on n'a pas le droit de parler de ces choses-là en dehors de l'expérience. On n'a pas le droit de donner une idéologie, de donner une opinion en disant faites ci, faites pas ça. C'est à partir de l'expérience qu'on se forme. Mais moi, personnellement, j'ai eu des expériences, puisque je me suis fait moine qu'à 28 ans. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais ça, je peux vous affirmer que. Je peux vous affirmer. Soyez tranquille, j'ai conservé ma virginité. Conservé grâce à Dieu, uniquement. Uniquement grâce à Dieu. Mais quand même, j'ai quand même eu des relations d'amitié. Oui, bon, avec des femmes. Bon, ça c'est sûr. Mais ce que je vous dis là, je pourrais vous donner des détails, c'est fulgurant. D'ailleurs, c'est justement parce qu'une de mes amies s'est étonnée justement complètement, j'allais dire, très profondément, que ça avait réveillé dans mon cœur le fait que bon, là, je ne pouvais pas faire autrement que normalement d'assurer la réciprocité à ce degré de profondeur-là. Et justement, je ne l'ai pas fait parce que je savais que j'avais la vocation. Et c'est ce qui m'a déclenché mon départ de Paris, n'est-ce pas, pour faire les exercices de Saint-Ignace. Je savais très bien les résultats parce que je sais depuis l'âge de 7 ans, n'est-ce pas, où est-ce que j'aboutirais. Mais vous voyez comme la femme a été médiatrice par le corps de ma vocation. À travers une étreinte, vous voyez. Une étreinte très chaste, hein, elle a duré toute la nuit, mais c'est tout... très très chaste. Extrêmement chaste, oui. Hein. Ouais, ouais. Non, on ne peut pas faire plus chaste, ça je peux vous affirmer. C'est bon. Vous voyez, ça c'est sûr. C'est sûr, comme le corps de la femme. Le corps de la femme a une fonction aussi féconde au point de vue spirituel que l'esprit dans la femme. Elle est médiatrice dans l'ordre de la profondeur du don. Et par contre, bon ben, vous avez tous été amoureux de filles complètement légères. Hein? Comme le type, comme la fille là, qui avait été voir la voyante dont je vous ai parlé, du père Marin, hein, du père Jacques Marin, qui va voir son mec crépu. Hein? Bon, bah, il a tout de suite vu le degré de profondeur. Enfin, on est, une fille facile, elle était complètement superficielle, cette fille. Bon, alors, vous voyez quand une fille se donne, alors vous l'aimez, vous êtes amoureux d'elle, etc. Bah, vous voulez lui donner la foi, vous voulez lui donner, je sais pas, vous voulez lui communiquer quand même quelque chose de plus profond, vivre avec quelque chose de plus profond, cette espèce de truc bâtard, complètement idiot. Ça passe pas. Ça ne passe pas, il n'y a rien à faire. C'est vraiment très curieux. Vous n'avez qu'à regarder parmi vos frères, vos sœurs, vos cousins, vos cousins, si vous connaissez bien vos amis, si vous connaissez très très bien. Vous verrez. C'est aussi un discernement à faire dans la préparation au mariage. C'est un petit critère, ça, qui est très intéressant. Pour voir si c'est telle personne. Alors, vous voyez, vous avez ça. Donc, c'est le troisième aspect, c'est qu'elle est médiatrice de toutes les grâces. Et c'est à cause du fait qu'elle est médiatrice de toutes les grâces, de l'amour, dans l'ordre de l'amour, que le Christ, qui est le recréateur sur la croix de tout, va reprendre ce qu'il y a de plus pur du point de vue de la création, c'est-à-dire la femme, du point de vue de la créature, ce qu'il y a de plus pur, pour la recréer elle-même dans sa pointe la plus pure et donner une plénitude de grâce. Et c'est ça le mystère de l'Immaculée Conception. Mais la splendeur de l'œuvre du Créateur, c'est la femme qui est médiatrice dans l'ordre de l'amour. C'est la splendeur, c'est la gloire, c'est l'expression la plus parfaite de la création, c'est la femme. Et de même là, la splendeur, l'aspect le plus parfait de la recréation par la croix, c'est l'Immaculée Conception. Vous voyez comment donc le Créateur a créé Ève, la femme, comme étant, j'allais dire, le flambeau de toute la création. Le peuple est pur. Mais oui, après, il peut se reposer. Il peut se reposer. Il contemple. Librement. Extraordinaire. Et la recréation par la croix, c'est pas une création du tout. C'est le mystère de l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception, c'est pas du tout être. Vous comprenez bien? C'est la plénitude de grâce. C'est pour ça que dans l'oraison, on en parlait tout à l'heure en allant au Vista avec. On a fait une oraison à la messe de ce matin qui a été abominablement traduite par le conseil français de la liturgie en disant: toi qui as délivré Marie des séquelles du péché originel. Pas du tout. Il n'y a absolument pas. C'est contraire à toute la foi catholique, ça. Elle a été délivrée, pas du tout des séquelles. Sinon, elle n'aurait jamais lutté. Ève n'avait pas à lutter. Elle a dû lutter pour pécher. Ça, oui. Tandis que Marie, elle a dû lutter pour rester préservée. Elle a eu toutes les séquelles du péché originel, comme nous. Nous, au baptême, nous avons été lavés du péché originel et nous avons encore les séquelles. Si quelqu'un n'a pas les séquelles, qu'il vienne me voir, il m'intéresse. Ça prouve qu'il n'a pas été atteint par les séquelles du péché originel. Marie a été atteinte par les séquelles du péché originel, les trois conséquences du péché originel dont parle saint Jean: concupiscence des yeux, concupiscence de la chair, concupiscence de l'esprit. Mais dès l'instant de sa conception, la plénitude de grâce, sortant du cœur ouvert du Christ sur la croix, saisie par l'Esprit Saint, qui plane sur les eaux, la création. Les eaux, c'est la création. C'est l'aspect de la nature, les eaux. Ce qui est naturel, l'eau, le sang, l'esprit. Voilà Fatima. Alléluia. L'Esprit Saint saisit dans le cœur de Jésus ouvert. L'eau. L'eau. Donc, la nature. Ce qu'il y a de plus parfait dans la créature de la femme, dans la Genèse, le sang. Oui. Donc, ce qu'il y a de plus plaigné du point de vue de la grâce et de la vie divine. Et l'Esprit Saint. Pour, j'allais dire, concentrer ces trois-là, en crevant les espaces du temps, l'espace et le temps, et constituer, j'allais dire, par une espèce de retour en arrière prodigieux, ce qui montre bien que le Christ est dans l'éternité, ce qui est évident puisqu'il est Dieu, pour constituer l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception, c'est la grâce qu'il a créée. Elle est créée toute grâce. Et du coup, eau, sang, Esprit Saint. Mais c'est pas du tout Ève. La grâce chrétienne implique la lutte contre l'iniquité du monde, implique le fait que je suis issu de l'agneau et que, étant issu de l'agneau de Dieu, broyé, le cœur de Jésus broyé à cause de nos péchés, j'épouse littéralement le cœur de Jésus, je fais un seul cœur avec lui dans mon mystère de compassion. Je suis littéralement fondu dans l'aspect broyé du cœur de Jésus. Broyé par quoi? Par l'horreur du péché, du monde. Ça, c'est l'aspect le plus important de l'esprit de virginité. La nourriture de l'esprit de virginité, c'est la croix. Vous voyez? Après, vous avez le fait que, bien sûr, il est l'époux. Et donc, il y a une espèce d'attraction du Christ sur Marie, sur la femme, la nouvelle Ève. Une attraction formidable. Qui fait que Marie est complètement absorbée. Complètement. Et fondue dans le cœur de Jésus. C'est pour ça qu'il y a eu à ce moment-là ce qu'on appelle la transverbération du cœur de Marie. Comme dit Sainte Catherine de Sienne, puisque c'est quelque chose qu'elle a vécu, elle, Catherine de Sienne, ainsi que Marthe, etc. Sainte Thérèse d'Avila et compagnie. Une espèce d'époux et d'épouse qui fait qu'on est une seule chair physiquement. Mais au niveau du cœur. C'est le deuxième aspect de la virginité. Or, qu'est-ce que le cœur de Jésus fait? C'est qu'il s'offre. Il Il ne pense pas à la souffrance, il ne pense pas à la croix, il ne pense pas... Non, il ne pense qu'à une seule chose, c'est à offrir sa vie au Père. Au moment de la croix, c'est l'amour qu'il a pour son Père tellement... qu'il est le fils bien-aimé du Père. Et c'est le troisième aspect de la virginité du cœur, l'esprit de sagesse.